Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Dnevniki mira.
Europa 1.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ces carnets toujours confinés et pourtant on s'échappe pour aller entendre à quoi ressemble la vie des autres ailleurs. On le fait grâce aux correspondants d'Europe 1 bien sûr et grâce à vous aussi puisque vous avez fait vôtre l'adresse mail lescarnetsdumonde@europe1.fr et deux d'entre vous témoigneront encore dans cette émission. Quelle réalité se cache derrière ce mot déconfinement? On va aller chercher quelques réponses en Chine, voir à quoi ressemble la nouvelle normalité là-bas et puis on ira aussi à Venise qui s'apprête à sortir de sa torpeur. La ville a été profondément changée par l'épidémie et peut-être va réinventer le quotidien autrement dans les mois et les années à venir. C'est le souhait en tout cas de beaucoup de Vénitiens. Autre sujet, la solitude des personnes âgées, plus vulnérables pendant ces confinements. Cette solitude a mené à la catastrophe révélée ces dernières semaines dans les maisons de retraite au Québec, on va vous raconter. Et c'est pour briser cette solitude qu'au Brésil, une grande équipe de bénévoles appelle des personnes isolées pour leur lire des poèmes, la culture comme lien d'humanité auquel s'accrocher. Je vous emmènerai en Inde, dans un petit état de la côte Est, l'Orissa. C'est là que vit Alexandra, une auditrice qui nous racontera comment on essaye de repousser l'épidémie là-bas. Pour nous dépayser, attention, Nicolas Carreau a pioché dans sa bibliothèque de science-fiction. Enfin, Joseph Chovanec a planché sur la distanciation sociale que pour sa part, il exerce depuis longtemps et le plus souvent possible. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Pékin.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Déconfinement, le mot suscite autant d'espoir que d'interrogations. Comment ça va se passer au quotidien? À quoi va ressembler cette nouvelle façon de vivre dehors? On a tous bien compris que la transition serait très longue avant le retour à une vie vraiment normale, tant qu'on n'aura pas de vaccin contre le coronavirus. Et donc, on regarde comment font les autres, ceux qui ont affronté l'épidémie avant nous et qui sortent du tunnel. Coup de projecteur sur le nouveau normal en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Chine, vous vivez à Pékin et sortez depuis quelques jours d'un long confinement. Alors comment ça se passe?
Alors le premier signe qui ne trompe pas, c'est qu'on a commencé à retrouver les embouteillages ici. Plus sérieusement, c'est un déconfinement encore très relatif. 90% des entreprises officiellement ont pu reprendre le travail, mais essentiellement à distance. Et dans les faits, seule la moitié des employés peut se rendre au bureau. Et ceci pour respecter la distanciation sociale. Ouais. Et puis surtout, les écoles et les universités ne sont pas encore rouvertes dans la capitale. Les terminales, les classes de terminale devraient normalement reprendre le chemin des cours demain, lundi. Pour eux, le bac a été décalé d'un mois. Il aura donc lieu les 7 et 8 juillet prochains. Mais pour les plus jeunes, ce sera une rentrée étalée sur plusieurs semaines.
Alors, dans d'autres régions du pays, les écoliers et les lycéens sont déjà retournés en cours. Ici, en France, on se pose un tas de questions, évidemment, sur la manière de s'y prendre. Comment ça se passe concrètement en Chine ?
Alors c'est vrai qu'en province, certaines écoles ont déjà rouvert et voilà comment ça se déroule. Un élève seulement par table, des masques obligatoires pour tout le monde et tout au long de la journée, y compris pour les petits, avant que les cours ne reprennent, tous les profs ont été testés et les locaux sont désinfectés plusieurs fois par jour. Parfois la cantine est annulée et quand elle a lieu, chacun doit venir avec ses baguettes, ses baguettes pour manger. Ce n'est donc pas très marrant pour les élèves, mais au moins ils peuvent reprendre les cours après 3 mois quand même d'interruption.
Ouais. Bon, voilà pour les écoles, collèges, lycées. Et pour le reste, alors, la vie quotidienne, est-ce que tout rouvre, ça redémarre, les gens ressortent?
Oui, les parcs ont rouvert ici, les centres commerciaux aussi. Vous pouvez donc refaire du shopping à Pékin, c'est important pour les Chinois. Pourtant, c'est toujours très différent quand même de la vie d'avant, à l'image des contrôles qui perdurent aux entrées de chaque résidence, donc pas vraiment de vie sociale encore. À chaque fois qu'on sort de chez soi, il faut des laissez-passer. On vous braque un thermomètre sur le front ou sur le poignet pour prendre votre température. Les personnes extérieures, comme les livreurs ou les amis, ne peuvent pas venir nous voir. Par contre, on peut se retrouver avec nos amis dans des restaurants ou des cafés. Ah. À peu près la moitié d'entre eux a rouvert à Pékin. Ceux qui sont fermés ont surtout fait faillite. Ils n'ont pas résisté à 3 mois de fermeture. Ah. Et pour ceux qui ont tenu le choc, c'est une nouvelle ère qui commence avec de nouvelles règles. Officiellement, c'est 2 personnes par table, mais il y a de plus en plus une certaine flexibilité. On porte un masque quand même, sauf quand on mange, évidemment. Et puis les serveurs sont tous équipés en permanence de masques et de gants, voire de lunettes de protection ou de visière. Écoutez, Yan Ze, elle est propriétaire d'un café à Pékin. Il a ouvert en 2016, mais elle a dû fermer pendant 3 mois. Et Madame Yan venait juste de rouvrir quand je l'ai rencontrée.
Au début, quand j'ai dû fermer mon café, j'étais tellement stressée que je ne pouvais plus dormir. Maintenant, ça va mieux. En Chine, l'épidémie est sous contrôle et du coup, nous avons eu l'autorisation d'ouvrir à nouveau. Les gens peuvent venir chez nous boire un verre ou alors on propose des livraisons à domicile. Mais la grosse différence, c'est que nous devons prendre la température de tous nos clients. Et ils doivent s'enregistrer sur ce registre, laisser leur numéro de téléphone et numéro de carte d'identité. Et puis, bien sûr, ils doivent mettre un masque et se laver les mains. Nous, on désinfecte quand ils s'en vont.
Ouais, bon, on va pas au resto incognito, hein, chez vous. La grande nouveauté, Sébastien, elle est électronique.
Oui, tout à fait. Pour sortir désormais, il faut non seulement accepter que l'on vous contrôle donc la température plusieurs fois par jour, mais aussi il faut dégainer son téléphone portable pour y scanner d'étranges codes électroniques. Il y en a de toutes sortes ici en Chine, des QR codes qui permettent de vérifier que vous n'êtes pas sorti de Pékin depuis au moins 14 jours. Si c'est vert, vous pouvez passer, mais si c'est rouge, interdiction de rentrer dans un lieu public. Même pour aller chez le coiffeur, il faut scanner ce QR code. Ça ne semble pas déranger quand même cette cliente que j'ai rencontrée ce jour-là au café.
Partout où l'on va, il faut s'enregistrer et scanner son QR code. C'est comme un certificat de bonne santé sur nos téléphones portables. Quand je sors de chez moi, j'ai besoin d'un laissez-passer. Et partout où je vais, je dois m'enregistrer pour être certain que je n'ai pas quitté Pékin et surtout que je ne suis pas censée être en quarantaine. Je trouve que c'est rassurant. Et puis comme ça, si quelqu'un est malade, ils peuvent retrouver tous les gens qui sont passés ici pour nous tester. Je me sens en sécurité. Et puis, il faut se conformer à ces règles du gouvernement.
Ouais, en fait, c'est votre identité numérique, hein, ce QR code. Alors, Sébastien, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il contient comme info sur vous? Qui détient ces infos? Et est-ce que vous avez le choix d'être traqué comme ça?
Ah non, ça, on a pas le choix. Hein. C'est un système d'ailleurs assez ambigu. Hein. D'abord, ça veut dire clairement qu'à notre insu, nous sommes espionnés par les opérateurs de téléphonie mobile ici, qui eux-mêmes travaillent main dans la main avec le gouvernement et donc avec la police. Nos portables sont soit géolocalisés avec la puce GPS, soit ils bornent lors de nos voyages ou des différents déplacements. Et c'est comme ça que l'État sait toujours où nous sommes allés, pendant combien de temps. Et en fait, ces applications fonctionnent un peu comme des bracelet électronique.
Mais donc l'État a accès aussi à tout ce qu'il y a dans votre téléphone?
Oui, potentiellement, tout à fait. Portable en Chine, vous le savez, il sert pour tout.
Bah oui.
Pour payer au restaurant, pour commander un taxi, pour se faire livrer de la nourriture et même emprunter de l'argent. La Chine, depuis plusieurs années déjà, a mis en place un système de crédit social qui est basé justement sur vos bonnes et vos mauvaises actions enregistrées via les téléphones portables. Et ce sont les mêmes opérateurs qui aujourd'hui gèrent ces QR codes de santé qui s'en occupent. Toutes nos actions sont donc centralisées dans des bases de données, des opérateurs, et la police semble y avoir largement accès. Donc pour être utile, pour contrôler l'épidémie, c'est une bonne chose, mais évidemment c'est la porte ouverte aussi à toutes les dérives, et ça inquiète ici plusieurs ONG, même si c'est difficile pour elles de critiquer ouvertement le gouvernement.
Et puis alors ce déconfinement, Sébastien, il se fait parfois dans la douleur.
Oui, c'est parfois une épreuve hein, pour les familles, puisqu'on a constaté une hausse importante des divorces en Chine. Une avocate m'expliquait que beaucoup de couples n'ont pas tenu le choc de ces 3 mois passés enfermés ensemble. Et son cabinet, d'ailleurs, ne désemplit pas.
Ouais.
Et puis, c'est aussi pour tout le monde une nouvelle vie faite de multiples contraintes. Par exemple, pour moi, c'est compliqué d'envisager de quitter Pékin. Si je quitte la ville pour aller, par exemple, à Shanghai, mon QR code va passer au rouge. Et à mon retour, ici à Pékin, où je vis, je serai donc mis en quarantaine, 2 semaines à l'hôtel et à mes frais. Ça fait donc très cher le voyage et c'est toute une organisation à revoir qui prendra et qui devrait même durer plusieurs mois, sans compter que la Chine a gardé fermé ses frontières pour tous les étrangers, y compris pour ceux qui ont un permis de résident ici. Ça veut dire que plus personne ne rentre et personne ne sort ou presque. C'est le prix à payer, semble-t-il, pour pouvoir affirmer en Chine que l'épidémie est sous contrôle, même si ça reste actuellement toujours fragile.
Ouais, fragile la situation, parce que pour le contrôle, il est plutôt costaud, hein, on l'aura compris. Déconfinement progressif et sous cloche, donc, en Chine. Merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage, à très bientôt dans les carnets.
Merci Sophie.
À suivre, un tout autre style de déconfinement, mais là encore, sans doute, rien ne sera comme avant. Je vous emmène à Venise dans un tout petit instant.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Europe 1, les carnets du monde.
On écoute le monde changer avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1. Après un confinement très strict, l'étau commence à se desserrer doucement dans les régions les plus touchées d'Italie, et notamment la Vénétie, Sophie.
Plus qu'une semaine de confinement en Italie jusqu'au 4 mai, mais déjà, à Venise, certains commerces ont pu rouvrir, comme les librairies, et les Vénitiens peuvent sortir et se déplacer un peu plus loin de chez eux. On a choisi Venise pour évoquer cette vie d'après coronavirus, parce qu'il fait peu de doute que la ville va devoir inventer un nouveau modèle économique. Elle ne pourra plus accueillir 30 millions de touristes par an. L'épidémie l'a en quelque sorte libérée de l'enfer du tourisme de masse. Et après, j'ai posé la question à une Française qui vit à Venise. Arielle Buteau est musicienne, ancienne de France Musique d'ailleurs, et auteure de plusieurs romans dont La Samouraï ou encore Connard. Elle en est convaincue, l'épidémie et le confinement vont marquer durablement le devenir de la Sérénissime. Et à la veille du déconfinement, l'espoir renaît. Arielle Buteau.
L'espoir renaît, c'est tout simple, hein, c'est que, en ce qui me concerne, depuis plus de 40 jours, je vis à peu près sur mon balcon au-dessus d'un joli canal à Venise, et je sens les odeurs du printemps qui arrivent, je vois les oiseaux, voilà, il y a ce printemps qui est là, qui est à la fenêtre et auquel on a très peu accès, donc c'est vrai qu'on a tous envie de sortir, de vivre notre vie, d'être vivant. On était quand même, oui, très très cloîtrés, c'est-à-dire que jusque très récemment, il était même pas possible de sortir pour une simple promenade. Ensuite, ça a été possible, il fallait que ce soit justifié, pas à plus de 200 mètres de la maison, donc ça n'allait pas vraiment bien loin. Donc, on fait vraiment des petits pas de fourmis. Et là, on a le droit de s'éloigner un tout petit peu plus, mais au-delà d'un kilomètre, on se fait rappeler à l'ordre par les carabiniers et verbaliser, et ça coûte très cher en fait.
Ça permet d'essayer de regarder un petit peu devant tout ça, et puis de réfléchir à ces plus de 40 jours dont vous parliez. Vous avez vu la ville changer du tout au tout, se vider, devenir extrêmement silencieuse, retrouver aussi des bruits et des odeurs que vous n'entendiez plus, que vous ne sentiez plus.
Alors c'est très bizarre ce qui s'est passé à Venise. En fait, le mouvement a commencé avant le confinement. Il a commencé lors de la très grande Acqua Alta dont les images ont fait le tour du monde. C'était dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier. L'eau est montée à presque 1,90 m, hein, c'est considérable. Hein. Et à partir de là, c'est vrai que les touristes sont partis et ne sont plus vraiment revenus. Donc ça nous a fait des vacances, faut bien le dire. Et en fait, pour moi, Venise, c'est une métaphore de ce que nous vivons en général. C'est une métaphore du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on était tous lancés à une espèce de train d'enfer en voulant toujours plus de profit, plus de croissance, plus de consommation, plus de voyages, plus de pollution, plus. En ayant complètement oublié de regarder ce qu'on avait sous le nez et qui parfois était formidable et pouvait largement suffire à notre bonheur, j'avais le sentiment d'être dans un train fou. Et très souvent, je me disais, je voudrais descendre du train, en fait. Laissez-moi descendre de ce train-là. Je ne veux pas de ça, quoi.
Qu'est-ce que le confinement a permis, du coup ?
Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Imaginez un TGV lancé à vitesse maximale qui s'arrête d'un coup en rase campagne. La ville s'est entièrement vidée. Il n'y a plus que les Vénitiens qui sont confinés. Donc, quand vous sortez dans la rue, en fait, il n'y a personne. Et d'un coup, tout s'est figé, quoi. En plus, les bateaux à moteur sont interdits depuis le confinement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La ville est devenue extrêmement silencieuse. Le ciel est devenu magnifiquement pur parce qu'il n'était plus perpétuellement zébré par les avions qui nous passent au-dessus de la tête en permanence en temps ordinaire. Voilà, l'eau est redevenue à peu près propre, en tout cas extrêmement plate, extrêmement calme. Évidemment, les grands navires, on n'en entend plus parler et je pense qu'on n'est pas près de les revoir. On entend des oiseaux comme jamais on en a entendu. On entend les bruits de la vie quotidienne comme on ne les entendait plus aussi.
La cuisine du voisin.
Tout. Moi, par exemple, j'ai des très vieux voisins c'est un vieux couple, ils ont 94 ans. Et je dois dire que chaque matin, je suis rassurée de les entendre parler, marcher.
Tout ça, c'est plutôt bien, non?
Oui, c'est-à-dire qu'on a tous nos sens qui fonctionnent. Avant, on était dans une espèce de pollution visuelle et sonore avec tous ces magasins de verroterie qui non seulement sont extrêmement laids, en plus, pur scandale, reste allumé avec des néons toute la nuit, alors qu'il n'y a rien de plus beau que la douceur de la vie vénitienne avec ses réverbères qu'on a avec une lumière jaune très jolie. Enfin bon, la pollution sonore aussi, parce qu'évidemment tout ça fait un bruit effroyable et tous ces magasins sont toutes portes ouvertes avec des musiques à un temps qui vous cassent le crâne. Donc là, c'est vrai que on n'a plus de pollution atmosphérique, donc on ressent les odeurs tout simplement. Donc ces odeurs de printemps, ces odeurs de cuisine, comme vous dites, ces odeurs de lessive aussi. Les gens ici continue à suspendre le linge aux fenêtres. Il n'y a plus de pollution sonore, il n'y a plus de pollution atmosphérique, il n'y a plus de pollution visuelle. C'est-à-dire que tous ces magasins qui étaient absolument affreux sont fermés aujourd'hui. À la place, on voit des rideaux de fer. Et du coup, l'œil se pose sur cette Venise qui est quasiment inchangée depuis des siècles et des siècles.
Du coup, est-ce que paradoxalement, vous craignez un petit peu que le déconfinement qui va vous permettre de sortir de cet isolement vous ramène vers le monde d'avant et la folie que vivait Venise avant?
Alors d'abord, je pense que le déconfinement à Venise, ça va être très compliqué. Parce que très concrètement, la plupart des rues font à peine 2 mètres de large. Donc la distance sociale, c'est pas possible ici. Quand la ville va se remplir à nouveau, je sais pas du tout comment on va faire. Ça ne va pas être possible, en fait. Après, moi, ce dont je rêve, c'est de la Venise d'il y a encore 20, 25 ans, dont beaucoup de gens se souviennent ici. Je parle des Vénitiens avec nostalgie. C'était une ville qui accueillait beaucoup de tourisme, déjà. Mais d'abord, c'était pas un tourisme qui arrivait par gros navires entiers avec des débarquements de plusieurs milliers de personnes. Il n'y avait pas autant d'avions. Il n'y avait pas toutes ces compagnies à bas coût qui déversaient des voyageurs en grand nombre comme ça. Maintenant, il y a eu ce surdéveloppement de Airbnb, par exemple, et il faut savoir que se loger, trouver un appartement à louer à Venise avant la crise en contrat de résidence, c'est-à-dire en contrat long, en contrat normal, c'était devenu la croix et la bannière. C'était quasiment impossible. On voit bien, parce que moi je reçois des annonces d'agences immobilières, des gens que je connais, etc. On voit bien que ça y est, les Vénitiens qui avaient fait le choix de ne louer qu'à des touristes commencent à remettre leurs appartements dans le circuit des résidents. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si on peut à nouveau se loger à Venise, il y a des Vénitiens qui ont dû quitter Venise, qui sont expatriés sur la terre ferme, et ils le vivent vraiment comme une expatriation. Ces gens-là pourront revenir. Après, il faut qu'ils aient des choses à faire ici. Il faut qu'ils aient du travail. Alors je me dis que peut-être cette expérience qu'on est tous en train de faire du télétravail va peut-être donner aux employeurs une perception différente de leur manière d'interagir avec leurs employés et que peut-être des gens vont pouvoir s'installer ici et travailler ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça passera par le retour des Vénitiens dans leur ville, c'est évident.
Vous vous dites que Venise est peut-être en train d'écrire le monde de demain, vous écrivez ça.
Oui, alors ça c'est... Je dis ça parce que je fais référence à la vie quotidienne qu'on a en ce moment. Par exemple, on n'a eu aucun problème d'approvisionnement à Venise. Jamais. J'ai entendu dire qu'ailleurs, il y avait, en France par exemple, il y avait des supermarchés qui s'étaient vidés. C'est pas arrivé ici. Et pourtant, on n'a pas énormément de magasins, hein, de magasins de première nécessité. Nous, on n'a que de la pacotille ici. Donc, les magasins de première nécessité, on n'en a pas énormément. Mais ils ont suffi. Et puis, ils ont suffi parce que les Vénitiens ont une histoire compliquée. La construction même de cette ville, il y a plus de 1000 ans, c'était vraiment pour se mettre à l'abri. C'était pour, c'était une utopie. Hein. C'était Le Corbusier qui disait que Venise, c'était une ville qui avait été construite par des gens qui voulaient simplement bien vivre ensemble. Et bon, ils l'ont vraiment tiré de la lagune. C'est une ville qui est en partie construite sur des poteaux de bois, hein, qu'on est allé chercher dans les forêts, sur la terre ferme, dans les montagnes. Donc c'est une ville très, très singulière. Et c'est une ville qui a connu, par le passé, des grandes épidémies de peste, de choléra, qui a eu des tas de soucis. Enfin bon. Et c'est une ville qui s'en remet toujours, en fait. C'est une ville très résiliente. L'Acqua Alta, dont on a parlé en novembre, a fait le tour du monde, mais en réalité, je pense que ça a plus effrayé les gens à l'extérieur que les Vénitiens eux-mêmes. Les Vénitiens, bon, ben voilà, c'est arrivé. Le lendemain, ils retroussaient leurs manches, ils jetaient, ils rangeaient, ils pompaient. L'eau est revenue 2 jours après, rebelote, ils s'y sont mis, les jeunes ont aidé. Enfin, voilà, il y a toute une réactivité, en fait, très solidaire, avec beaucoup de bon sens, qui se met en place immédiatement. Et là, ça a été le cas. Par exemple, on est très bien nourri en ce moment par la production agricole des îles de la Lagune. Il y avait des gens, des Vénitiens, qui préféraient aller à Mestre autrefois parce qu'ils trouvaient que c'était moins cher, donc ils prenaient leur bus ou leur voiture. Là, c'est plus possible, on n'a plus le droit. Il y a des militaires et des carabiniers à l'entrée du pont et on quitte pas Venise. Hein, voilà. On est vraiment en quarantaine. Et donc, il y a des barques, des bénévoles souvent, des barques à rames qui vont... chercher les légumes dans la lagune et qui les ramènent et on peut les consommer ici. Enfin,
et ça va laisser des traces.
J'espère, en plus, on rêve tous. Ouais. Enfin, quand on rêve du monde de demain, on se dit, oui, ce serait génial de consommer local, de produire local, d'avoir une pollution zéro. Là, on y est, on va embarquer, il y a des gens qui vont embarquer chercher les légumes dans la lagune. C'est un modèle parfait, en fait. Ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Il y a vraiment un équilibre à trouver, à retrouver. Entre pas du tout de touristes, ce qui serait vraiment dramatique pour Venise, et trop de touristes comme avant, qui de toute façon étaient dramatiques. On est arrivé à saturation. Actuellement, on est, je pense, 52 000 habitants. C'est le chiffre officiel. C'est un petit peu moins même. Avec Venise et les îles, hein. On est les îles, donc Burano, Murano, tout ça. Et on est à presque 30 millions de touristes. C'est complètement fou, en fait. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas d'avoir encore des rues vides, c'est d'avoir encore des Vénitiens à Venise. Et ce qui me rend optimiste, c'est que c'est une ville qui s'est toujours relevée. Et puis là, on est allé un peu loin, et j'espère qu'on va remettre le curseur à un endroit raisonnable. Mais bon, ce sont des vœux. Je sais qu'ici, à Venise, il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent. On a une mairie qui fait des déclarations vertueuses à la presse étrangère, ce qui agace beaucoup les Vénitiens, parce qu'en fait, on sait très bien que dans le même temps, c'est une mairie qui a très envie de faire revenir les choses telles qu'elles étaient avant. Donc on ne sait pas trop où on en est. Maintenant, il y aura bientôt des élections à Venise. Les choses peuvent changer.
Peut-être que cette crise va changer des choses.
Oui, bien sûr qu'elle va changer des choses. Et puis on a quand même une chance à Venise, c'est que les gens qui vivent ici sont des gens qui sont amoureux de leur ville. Et il y a des associations, notamment de jeunes, mais pas que de jeunes, enfin vraiment de gens qui réfléchissent, qui brassent des idées. Il faut être réaliste, les gens qui vivent du tourisme vont avoir besoin de retrouver des sources de revenus. Mais je pense que ces mêmes personnes qui vivent du tourisme se rendent compte que la monoculture du tourisme les met dans un effroyable danger et surtout est en train de détruire la ville.
On dit tous qu'il y aura un avant et un après Covid-19, c'est un petit peu plus vrai peut-être à Venise qu'ailleurs.
Ah, je pense, ouais. Je vois vraiment pas, en étant vraiment le plus rationnel possible, je vois pas comment on pourrait revenir aux excès d'avant. Ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Ça va pas être possible, en fait. On peut pas continuer à entasser les gens dans les vaporetti, on peut pas continuer à les entasser dans les rues. Enfin, il y a certains quartiers de Venise où, en haute saison, vous ne pouvez pas passer. Et puis, le moindre événement, la moindre fête, provoque vraiment des amas de gens, des foules, place Saint-Marc, etc. Et je pense que, ça va tout simplement plus être possible pendant très très longtemps. Et donc, du coup, pendant toute cette période où ce ne sera pas possible, il va bien falloir trouver d'autres moyens de vivre et de survivre. Donc, je pense qu'on va développer d'autres manières de faire. Et j'espère que ces manières de faire seront raisonnables, respectueuses de cette ville qui est tellement... C'est un joyau, quoi. Mais c'est un joyau qui ne nous appartient pas. C'est exactement comme la planète. C'est un joyau dont on a hérité, qui a une histoire très longue, et qu'on doit remettre en bon état aux générations futures. Venise n'est pas de passage. Nous, on est de passage dedans.
Ariel Buteau, auteure et habitante d'une ville convalescente, Venise, qui pourrait donc se réinventer à l'occasion de cette pandémie. C'est ce que semble souhaiter en tout cas beaucoup de Vénitiens et qui pourrait, pourquoi pas, nous inspirer ailleurs. Allez, dans quelques dizaines de secondes, on se plonge en littérature avec Nicolas Carreau qui nous rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
On poursuit avec vous une sorte de tour du monde des grands classiques qui permettent de changer un peu d'air pendant ce confinement. Cette semaine, vous vouliez partir carrément dans un autre monde.
Avec de la science-fiction, c'est quand même le meilleur moyen de s'évader justement. Et avec un livre en particulier d'un auteur que beaucoup connaissent sans même l'avoir lu à cause ou grâce aux adaptations de ses histoires au cinéma. Total Recall par exemple avec Schwarzenegger, c'est lui. Blade Runner aussi avec Harrison Ford. Paycheck avec Ben Affleck. Ou Minority Report avec Tom Cruise. Il a été bien servi par le cinéma américain, c'est Philip K. Dick.
Alors, on lit lequel aujourd'hui ?
J'ai choisi Ubik, U-B-I-K, c'est le chef-d'œuvre justement de Philip K. Dick, écrit en 1966, et pourtant il n'a jamais été adapté en film, parce que c'est impossible tout simplement, non pas parce que l'intrigue est compliquée, mais parce que l'histoire est pleine de ramifications, nous sommes dans le futur, en 1992, mais bon, quand on écrit en 66, c'est le futur. Ce monde imaginaire est dominé par l'argent, tout est payant, absolument tout, vous ouvrez une porte, vous payez, vous prenez une douche, vous payez, vous faites un café, pareil, vous mettez une pièce, ce qui fait que quand vous êtes en manque de monnaie, ça peut vite devenir embêtant. En fait, tous les thèmes de la science-fiction sont réunis dans ce roman. Il y a aussi des vaisseaux spatiaux, tout un tas de gadgets futuristes qui existent aujourd'hui, mais c'est pas le plus important. Pour Bernard Werber, l'écrivain de science-fiction français, Philip K. Dick est capable de voir le futur technologique, certes, mais pas seulement.
Philip K. Dick n'est pas qu'un écrivain, c'est un prophète. C'est un type qui annonce le monde à venir, et c'est un homme, c'est un écrivain qui aussi nous explique que les enjeux ne sont pas que technologiques, mais ils sont aussi philosophiques. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu l'œuvre de Philip K. Dick. C'est, posez-vous des nouvelles questions, vous pouvez atteindre des vertiges de la pensée. Toute l'œuvre de Dick est un vertige. Toute l'œuvre de Dick est une ivresse. Toute l'œuvre de Dick est une joie.
Il a l'air d'être un grand admirateur, en tout cas, Bernard Werber.
Plus que ça même, Ubik a déclenché quelque chose chez Bernard Werber. Il faut dire que le roman est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction. Les personnages évoluent dans des mondes parallèles, des réalités différentes, au point même que l'un des personnages a des bonnes raisons de se demander s'il est vivant ou mort. C'est ce moment qui a fasciné Bernard Werber.
Je me suis dit, tiens, si un jour j'arrivais devant une pierre tombale et il y a écrit dessus « Je suis vivant et vous êtes mort » et que je prenais conscience que c'est moi qui suis mort et que c'est l'autre qui est vivant. Et cette idée, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné l'effet de comme si j'avais bu un verre d'alcool. C'est-à-dire, je me suis dit « Bon sang, peut-être que je suis mort et que je ne m'en suis même pas aperçu. » J'avais cette information avant de lire le roman. Et quand j'ai lu le roman, je me suis dit « Comment il va arriver à ce point où le personnage va faire cette découverte ?» Je me rappelle, j'ai remercié l'ami qui m'a fait découvrir ça, qui s'appelait Francis Friedman. Et je lui ai dit « C'est une fenêtre qui s'ouvre dans mon esprit. »
C'est un livre qui donne le vertige, manifestement. Hein,
c'est un livre qui peut effectivement modifier votre vision du monde, qui ouvre de nouvelles perspectives en proposant des réalités différentes. C'est pas le livre de Philip K. Dick le plus facile à lire, mais c'est sans doute le plus fascinant.
Ubik, donc, de Philip K. Dick, pour s'évader à travers l'espace-temps. Merci beaucoup. Merci Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure quand vous prendrez la suite des carnets à 14h avec La Voix au Livre. À
ça
tout
marche.
À l'heure.
Europe 1, les carnets du monde.
En France, les visites des proches reprennent doucement dans les EHPAD avec des conditions de sécurité drastiques. Et bien dans les carnets, on va aussi au chevet des personnes âgées, mais ailleurs, dans le monde, et avec vous Sophie Larmoyer.
Chez nous, on a su mercredi que le nombre de morts dus au coronavirus dans les centres médico-sociaux, dont les EHPAD, avait franchi la barre de 8000. Mais il y a un pays cousin où le sort des personnes âgées fait aussi la une depuis plusieurs semaines, c'est le Québec, qui a découvert avec effarement une hécatombe dans certaines maisons de retraite. À cause du Covid-19, mais pas seulement, c'est surtout l'absence de personnel et donc de soins qui est pointé. Écoutez, Erwan Rimbaud, c'est un auditeur d'Europe 1 qui vit au Québec et nous a contacté via l'adresse mail de l'émission lescarnetsdumonde@europe1.fr.
Déjà, c'est vrai qu'il faut savoir quand même, c'est pas un secret, mais depuis plusieurs années, il y a des gros soucis de main-d'œuvre dans de nombreux métiers au Québec. Et les préposés aux bénéficiaires, donc en gros,
les aides-soignants.
Voilà, c'est ça. Ici, on appelle ça préposés bénéficiaires. Les aides-soignantes, en fait, font vraiment partie d'un secteur justement très touché par ce manque de main-d'œuvre. Mais après, il y a un autre problème aussi qui se pose autour de ce métier-là, surtout dans le secteur privé, c'est l'attractivité. Parce que dans le secteur public, c'est ça, les salaires sont très très bas. Pour vous donner une idée à peu près, c'est le salaire de base pour une aide-soignante, c'est à peu près 12 à 13 dollars de l'heure. Ça équivaut à peu près au SMIC quasiment. Pour vous donner une idée, du personnel au fast-food, là, chez McDonald's, ils gagnent quasiment le même salaire.
Ok, ça c'est propre au secteur privé, hein, dans les maisons de retraite.
Oui, mais après, secteur public, ils ont un peu plus de facilité à trouver parce qu'eux ont des salaires beaucoup plus élevés. Ils sont quasiment à 20 dollars de l'heure. Donc, il y a vraiment un gros écart de salaire entre le secteur public et le secteur privé.
Avant même l'épidémie, il y a un problème de main-d'œuvre.
Oui. Avant même l'épidémie, déjà, il y avait un manque de main-d'œuvre. Ce qu'il y a aussi une autre différence, c'est qu'en France, je pense que c'est un secteur qui est beaucoup plus contrôlé que chez nous. Donc, il n'y a pas eu énormément de contrôle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas réellement comment ça se passait à l'intérieur. Disons que de temps en temps, on entendait parler qu'il y avait eu, il y avait des problèmes de traitement, notamment justement à cause du manque de main-d'œuvre. Je sais que les gens qui étaient dans ces établissements-là n'étaient pas lavés tous les jours. Ils avaient le droit, je crois, à un bain par semaine. Donc arrive là-dessus justement le problème de la pandémie avec des personnels dans certaines maisons de retraite qui ont pris peur et qui ont vraiment littéralement déserté leur poste.
Ils sont partis,
c'est ça, ils sont partis tout bonnement. C'est du jour au lendemain, il y a eu des maisons de retraite là où ils se sont retrouvés, je sais qu'il y a eu une maison de retraite, ils se sont retrouvés, ils étaient trois pour gérer 150 personnes.
Et trois personnes, trois médecins ou...
Non, trois personnes, il y en avait un, je crois qu'il y avait une aide-soignante, il y avait un concierge et puis peut-être un responsable, quoi, c'est tout.
Comment ont-ils fait ?
Ils ont fait comme ils ont pu et c'est ce qui nous a conduit à la situation actuelle. L'événement révélateur au tout début, ça a été la fameuse maison de retraite, on en a entendu parler, je crois, jusqu'en France, qui était la maison de retraite Héron, où en fait... Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Et quand l'État a voulu voir un petit peu ce qui se passait dans cette maison de retraite, déjà, ils se sont fait opposer une fin de non-recevoir. Le responsable de cet établissement n'a pas voulu leur ouvrir, n'a pas voulu les laisser rentrer. Il a fallu une injonction du tribunal pour les autoriser à accéder au dossier des patients qui étaient à l'intérieur. Et là, ils ont découvert qu'en l'espace de 15 jours, il y avait eu 30 morts qui n'avaient pas été déclarés. Et en plus, quand il y a eu des préposés qui sont rentrés dedans, il y a une préposée qui avait témoigné. C'était l'horreur. C'était des personnes âgées qui étaient dans leurs excréments depuis plusieurs jours, des personnes âgées qui n'étaient pas lavées, qui, certaines qui n'avaient pas eu à manger. Ça a choqué beaucoup l'opinion publique. Le Premier ministre a mis vraiment tout de suite en place des mesures où il a demandé un contrôle systématique de toutes les maisons de retraite au Québec. Et à la suite de ça, ils ont découvert qu'il y en avait eu d'autres où il y avait eu... La première, il y avait vraiment eu, je dirais, de la malhonnêteté de la part des dirigeants. Après, les autres, il y en a eu où vraiment c'est que le personnel a été débordé entre ceux qui sont tombés malades à cause du Covid, qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils ont été mis en confinement, qui n'ont pas été remplacés. Et du coup, ceux qui restaient se retrouvaient complètement débordés. Ils ont été dépassés par la situation. Et là, on se retrouve dans une situation actuelle qui est intolérable, où il y a certaines maisons de retraite où les gens qui sont rentrés dedans ont dit « mais c'est pas le Covid qui va tuer les résidents, c'est la malnutrition et c'est le manque d'hydratation. »
Ce sont des établissements qui facturaient entre 3 et 10 000 dollars canadiens par mois.
Oui. Ben après, ça dépend des établissements. Il y en a plus ou moins haut de gamme. Mais le premier, l'établissement Héron, là où il va vraiment, d'où est parti le scandale, lui, effectivement, c'était facturé entre 3 et 10 000 dollars. Donc, c'est ce qu'a dit un petit peu le Premier ministre en disant que c'était scandaleux parce que, avec des loyers pareils, ils pouvaient pas dire qu'ils pouvaient pas payer leurs salariés ou qu'ils pouvaient pas mettre en place des choses.
Du coup, Erwan, le Premier ministre a lancé un appel au renfort du personnel soignant et même des familles pour venir aider.
Oui, et vraiment, en plus, quand vous dites personnel soignant, vous croyez pas si bien dire, parce que c'est même des médecins qualifiés, des chirurgiens, des gens vraiment hautement qualifiés, qui ont été appelés juste pour donner un coup de main aux assistantes médicales, vraiment pour faire du travail, pour changer des couches, pour donner à manger aux résidents. C'est le personnel qui était dans les écoles pour apprendre le métier. Ils leur ont donné en avance leur diplôme pour qu'ils puissent venir aider. Les professeurs qui enseignaient justement les matières liées à ce métier-là aussi ont été appelés, réquisitionnés pour aller aider dans les maisons de retraite. Et là, ils continuent d'envoyer des demandes. Le Premier ministre a même demandé l'assistance de l'armée canadienne pour venir aider.
Donc gros scandale, mais finalement, ils essayent de reprendre un petit peu la main sur la situation.
Oui, ils essayent de reprendre la main, mais là, ça fait déjà presque plus d'une semaine que c'est vraiment la catastrophe. Et ils ont beaucoup de mal à reprendre la main. Il y a eu déjà de nombreuses plaintes qui ont été déposées par des parents, justement, de gens dans ces CHSLD pour mauvais traitement et pour tout ça. Mais après, de toute façon, il y aura un volet judiciaire. Le fameux EHPAD d'où tout est parti, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, dont une enquête au criminel.
Voilà, terrible situation dans ces maisons de retraite au Québec, avec une prise de conscience à l'occasion de cette épidémie qui pourrait enfin faire bouger les choses. On va maintenant découvrir une initiative bien plus souriante pour contrer la solitude des plus fragiles, souvent des personnes âgées et isolées. Ça se passe au Brésil. Une chaîne de bénévoles s'est créée au début de la pandémie pour appeler des personnes isolées au téléphone et partager avec elles un moment de littérature. Bonjour Marina Dacher.
Bonjour.
C'est vous, Marie, notre correspondante au Brésil, qui avez repéré cette belle démarche. La situation, c'est que, comme ici, beaucoup de personnes âgées sont confinées pour se protéger du virus, étant vulnérables, plus vulnérables que les autres. Mais en même temps, cela réveille les angoisses chez les plus fragiles. Certaines font des dépressions. Alors, en quelques jours, plus de 1000 lecteurs se sont portés volontaires. Racontez-nous, Marie, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est une idée toute simple pour rompre l'isolement des personnes âgées. C'est à Rio de Janeiro qu'a germé cette idée à partir d'un cas très précis que m'a raconté par téléphone Pedro Gerolimich. Il est responsable lecture au secrétariat à la culture de l'État de Rio.
Au bout d'une semaine de quarantaine, une de nos collaboratrices a envoyé un message dans notre groupe WhatsApp nous demandant de l'appeler car elle se sentait très seule et très déprimée. Et au bout de 30 minutes à lui parler, j'ai entendu qu'elle se sentait beaucoup mieux, qu'elle était plus joyeuse. Et j'ai repensé à cette conversation pendant une semaine. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser la littérature comme une porte d'entrée pour parler à ces personnes isolées. Et on a créé le projet basé sur des appels au téléphone, car beaucoup de gens âgés n'ont pas accès à Internet.
Mais oui, bien sûr, un bon bouquin ou un poème, ça fait du bien. Comment ça fonctionne concrètement, Marie ?
Alors, comme souvent, les chaînes de solidarité, ça a été très viral. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Vous l'avez dit, plus d'un millier de compteurs se sont manifestés et 3000 personnes isolées ont été enregistrées pour ce programme baptisé Historias por Telefone, Histoire par téléphone. C'est le secrétariat à la culture qui met en contact les lecteurs avec les personnes qui ont besoin de se changer les idées. Jane, par exemple, vit à Rio, dans le quartier de Jacarepaguá, et elle a reçu l'appel d'un certain Julio qui lui a lu une poésie. Alors, elle s'excuse de ne pas se souvenir laquelle, mais elle n'a pas oublié la mélodie des mots et surtout la générosité de son interlocuteur.
Je vis seule, donc bien sûr j'appelle mes amis, ma famille. Mais quand une personne qui ne vous connaît même pas se propose de vous appeler, de vous écouter et en plus de vous lire une poésie, c'est vraiment précieux. Bon, et je continue à me laver les mains, mais c'est pas nouveau pour moi. Et ma santé, j'essaie de bien dormir. Je regarde des films qui font du bien. J'évite les drames. Et j'ai découvert l'industrie des films indiens. Oui, c'est ça, Bollywood. Très intéressant, leurs films. Ça danse, ça chante, c'est plein de couleurs. Ça remonte aussi le moral.
Elle a le moral, cette dame. Hein. Elle a la pêche. Et elle parle de poésie. Quel type de textes sont lus ?
Alors, si vous voulez être volontaire et que vous n'avez pas d'idée, il existe une liste de poésie, de fables, de contes. Pour vous donner quelques exemples, des auteurs brésiliens comme Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade ou Paulo Coelho. Des brésiliennes aussi comme Carolina de Jesus, qui est la première femme des favelas à avoir publié son journal intime dans les années 60. Le poète portugais Fernando Pessoa. Et puis ces auteurs côtoient le britannique Rudyard Kipling, les fables d'Ésope, les contes d'Andersen ou de Perrault. Bref, les possibilités sont infinies. Les bénévoles peuvent aussi lire leurs propres textes. J'ai pu échanger avec une auteure qui a publié des recueils de poésie et jamais elle n'aurait cru les lire au téléphone à des inconnus. Mais elle m'a expliqué que c'était un échange aussi précieux pour elle que pour la quinzaine de personnes qu'elle a déjà appelées.
Ouais, dans une démarche altruiste, faire du bien aux autres, c'est toujours gratifiant, hein.
Oui, et c'est pour ça que l'initiative fonctionne. Les compteurs reçoivent un petit mode d'emploi en PDF. Ayez une voix joyeuse et souriante, ça s'entend comme à la radio, n'est-ce pas ? On commence par se présenter, on demande si la personne est occupée, et puis si on peut lui lire une poésie. Parce que ce n'est pas juste réciter des vers, c'est vraiment créer un lien, écouter la personne et lui donner de son temps pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Et aucun algorithme n'a encore été inventé pour remplacer la chaleur humaine.
Ah, c'est vraiment intéressant, en tout cas, ce recours à la culture dans un pays dont le président, on le rappelle, a supprimé le ministère du même nom et fait tout pour asphyxier le secteur culturel, sans parler du fait qu'il a longtemps nié la gravité de l'épidémie. Hein.
Oui, parce que cette initiative, elle est bien sûr politique. C'est une revanche de la littérature sur l'ignorance. Pedro Gerolimich, qu'on a entendu au début de ce reportage, défend l'accès à la culture pour tous. Il m'a parlé de cet obscurantisme qui gagne du terrain avec Jair Bolsonaro, qui ne jure que par les réseaux sociaux, attaque systématiquement la presse et répand régulièrement des fake news. Bref, revenir à la littérature, écouter des rimes riches, croisées ou enjambées, ça ne viendra pas à bout du coronavirus, mais c'est un remède puissant contre la solitude et puis on en a bien besoin en ce moment.
Oui, merci beaucoup Marie pour ce remède qui ne demande qu'à être copié d'ailleurs, décliné ici et ailleurs. Bonne lecture et à bientôt dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Et on va filer en Inde, entendre le témoignage d'une auditrice, Alexandra, qui vit là-bas depuis 19 ans.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer. Si vous vous souvenez peut-être de ce coup de projecteur dimanche dernier dans les carnets du monde sur la situation de l'Inde, le confinement y a été décrété si subitement et sans préparation qu'il a provoqué une crise humanitaire à travers le pays. Eh bien, nous y retournons, en Inde.
Alexandra Aluc est une auditrice fidèle des carnets qui vit justement en Inde depuis 19 ans. Elle nous a écrit la semaine dernière via notre adresse lescarnetsdumonde@europe1.fr pour nous parler de la situation dans le petit état de l'Orissa. C'est là qu'elle est installée et confinée. Son récit est comme une carte postale sonore pour chacun de nous.
Donc en fait, c'est situé sur la côte est de l'Inde, en dessous du West Bengal. Donc il y a une partie, toute une partie sur la côte et une partie dans l'intérieur des terres. Bon, c'est une région très très peu connue en fait, hein, très peu touristique. C'est assez pauvre. C'est une des régions les plus pauvres de l'Inde. Je crois que c'est la deuxième plus pauvre de l'Inde. Il y a un petit triangle, ce qu'on appelle le triangle d'or, où il y a en fait trois villes qui sont très touristiques, où il y a tous les temples, etc., qui sont assez visités. Et le reste de l'Inde, en fait, qui est de l'Orissa, qui est un petit peu oublié, quoi.
Et vous, vous habitez dans l'une de ces trois villes ?
Oui, Konarak.
Konarak.
Ouais, Konarak. On est un petit peu dans une zone privilégiée, on va dire, par rapport au reste de l'Orissa. C'est une petite ville, en fait, qui est existante parce qu'il y a le temple du soleil. Il y a 50 ans, il n'y avait rien du tout, quoi. Et comme le tourisme a grandi en Inde, bah, la ville s'est développée vraiment autour de la vie du temple. Il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de, de bureau, il n'y a rien du tout. Et la vie est tournée que autour du tourisme. C'est pour ça qu'ici, le coronavirus, ça va faire beaucoup de mal, quoi.
Alors, dites-nous que justement, comment les autorités ont réagi? Qu'est-ce qui a été mis en place pour faire face à ce virus?
Tout d'abord, ça a été les écoles qui ont été fermées, les temples, très rapidement. Le ministre de l'Orissa, il a agi très très rapidement par rapport à d'autres états de l'Inde.
Il y avait déjà des cas?
Non, 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 du tout. Mmh. Il y avait aucun cas. Il sait très bien, le ministre, qu'il ne va pas pouvoir faire face s'il y a une épidémie ici. Ils sont vraiment incapables de faire face à ça.
Parce que pas de moyens médicaux?
Pas du tout, vraiment pas du tout. Là, la ville où j'habite, moi, il y a un petit dispensaire, mais vraiment de rien du tout. Si on a un problème un peu plus grave, il faut aller à la capitale de l'État, qui est à 65 km d'ici. Par contre, là, il y a ce qu'il faut, mais dans le privé, pas dans le public.
Les gens ont pu se confiner dans votre ville? C'est quelque chose qui est possible avec le style de vie, la densité de population?
Ouais, parce qu'en fait, la ville où moi j'habite, c'est résidentiel, c'est pas des villages. Donc les gens ont pu se confiner et le niveau de vie est assez bon, s'il n'y a pas de richesse, mais c'est la classe moyenne en fait. Par contre, dans les villages qui entourent la ville où j'habite, je sais qu'ils n'ont pas réussi, ils peuvent pas se confiner. Vu le mode de vie qu'on a dans les villages, les portes sont ouvertes, les gens vivent les uns avec les autres, les enfants jouent dans la rue, et ils peuvent pas se confiner. C'est le village qui va se confiner des alentours, en fait. Un village, c'est comme une grande famille.
Et est-ce que le virus, du coup, se répand ou est-ce que les mesures mises en place semblent être suffisantes à ce stade?
Eh ben, en fait, le district où j'habite, il y a eu un cas, il y a déjà deux ou trois semaines, et il n'y a personne d'autre. Après, dans l'état de l'Orissa, les personnes qui étaient au grand rassemblement musulman, la Tablighi Jamaat, en fait, c'est des personnes qui étaient un peu de partout de l'Inde. Donc, il y a eu quelques personnes qui revenaient en Orissa. Donc, eux, ils ont eu quelques cas. Donc, ils ont isolé complètement le village. Donc, ça ne s'est pas dispersé. Et maintenant, il y a une nouvelle vague depuis quelques jours. C'est des gens qui rentrent de Calcutta. Et donc, là, il y a une pause et on pensait qu'on était sorti du truc. Et là, depuis 2-3 jours, c'est des personnes qui rentrent de Calcutta par les terres, en fait, à pied, à vélo. Et comme, en fait, Calcutta, il n'y a pas vraiment d'obstacles géographiques, ils peuvent venir plus facilement. Alors que l'intérieur de l'Orissa, il y a des montagnes, il y a énormément de réserves naturelles. Donc, ça fait une barrière naturelle. Que tout ce qui vient du Bengale, en fait, il y a beaucoup de voies et ils ne peuvent pas contrôler. Les frontières sont trop longues, trop vastes. Et là, c'est un petit peu une repanique, parce que c'est des personnes qui n'ont pas été détectées au départ et qui ont été en contact avec beaucoup de gens.
Pour en revenir à un niveau plus local, hein, votre ville, la ville où vous habitez, vous m'aviez expliqué qu'il y avait beaucoup de petits stands alimentaires, des petits restos de rue qui étaient là en permanence. Évidemment, tout ça a fermé, ça a des conséquences, notamment pour des hommes qui sont à la rue et qui se nourrissaient grâce à ces petits stands et au reste, c'est ça?
Oui. Donc en fait, ces personnes ont été prises en charge par la ville. Il y a des personnes qui vont faire de la cuisine pour eux. C'est des personnes qui sont totalement dépendantes.
Ce sont des personnes qui ont des handicaps mentaux?
Ouais, même des fois très lourds, hein. Vraiment très très lourds. Moi, habituellement, je les vois toujours, ils ont toujours quelque chose dans la main, un thé, un truc à grignoter que les personnes donnent régulièrement. Donc là, ils se sont retrouvés dans une ville complètement abandonnée. Donc ça a été tout de suite pris en charge. Le gouvernement a placé des personnes pour...
organiser une sorte de soupe populaire, quoi.
Voilà, ouais.
Et alors, autre particularité de la ville, il y a énormément, m'avez-vous dit, d'animaux errants, mais qui sont là, qui font partie du paysage. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'animaux habituellement dans la ville et qui eux aussi se sont retrouvés un peu abandonnés?
Donc en fait, il y a des vaches, pas une surprise, mais surtout des taureaux, plus que des vaches en fait, et des corbeaux, des chiens et des chats errants.
Mais il y en a beaucoup des taureaux par exemple dans la ville?
Ouais, il y en a à peu près une quarantaine.
Ah oui.
Donc c'est des animaux en plus qui sont assez imposants physiquement, mais ils sont très calmes.
Et alors, eux aussi étaient nourris par les restes des stands alimentaires. Comment ça se passe du coup pour leur venir en aide, pour pas qu'ils soient complètement affamés?
Voilà, donc il y a en fait un groupe de bénévoles qui s'est mis en place. Et tous les jours, ils prennent un véhicule et ils se retrouvent à un endroit. Les animaux... ont retenu l'endroit et ils se donnent rendez-vous ici et ils viennent manger tous les jours.
D'accord. Ils sont aidés financièrement, ce petit groupe de bénévoles dont votre mari fait partie, je crois, parce que à terme, 40 taureaux, des chiens errants, etc., des chats et tout, ça doit...
Oui, ça fait quand même énorme. Ouais. Ouais. Oui. Donc en fait, au départ, c'était des donations et puis maintenant, l'État les finance. Donc c'est pour ça, ça leur permet de continuer parce qu'au départ, on ne pensait pas non plus que ça durerait si longtemps.
Alexandra, qu'est-ce que vous allez retenir de votre confinement, vous, de cette période si particulière dans cette région de l'Est de l'Inde où vous vivez?
Alors, j'ai eu peur au début quand le virus est arrivé. Je me suis dit, mais en Inde, ça ne peut pas le faire, vu comment les gens vivent ici, le mode de vie, la promiscuité. Ici, c'est le pays des foules. Ouais. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de la réaction de tout le monde. Mmh. Je vois par exemple, quand je sors un peu pour faire des courses, quasiment tout le monde porte un masque. Ouais. Et même à partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire, sinon on a une amende. Mmh. Il ne faut pas que ça prenne. Si ça prend ici, ce sera incontrôlable. Là, pour le district de Puri, là, la ville, le district où j'habite, ils ont 200 lits pour accueillir... les malades seulement, 200 lits.
Il y a combien de personnes?
Un peu moins de 2 millions.
Oui, quand même.
1 700 000. Donc pour le moment, c'est très contenu, très surveillé. Mais voilà, on n'est pas sauvés, quoi.
Voilà, un même virus face à nous tous et des réalités pourtant bien différentes. Un grand merci à Alexandra qui a partagé avec nous la sienne. En Orissa, donc, ce petit état pauvre de la côte est de l'Inde où elle vit depuis 19 ans.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est tout juste 13h54, Sophie Larmoyer. Il est confiné en Belgique, mais fidèle au rendez-vous des carnets du monde. Voici Joseph Chevanec qui nous rejoint pour un petit voyage en Autistan.
Vous l'avez compris, depuis 4 ans que Joseph nous accompagne, l'autistan, c'est une manière de regarder le monde. Le regard à la fois d'un philosophe qui est aussi autiste Asperger et grand voyageur. Voyageur un peu immobile en ce moment, mais bon. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Depuis quelques semaines et pour un bon moment encore, le coronavirus nous oblige à prendre nos distances les uns des autres et ça vous inspire.
Oui Sophie, tout à distance, Amazon, télétravail, distanciation sociale, ces mots et expressions font désormais partie du vocabulaire quotidien et beaucoup de gens se demandent comment il serait possible de faire société à distance. Les anglophones qui ont parfois le génie de la formule parlent de la société du mètre et demi.
La distance, pas de contact, ça n'est pas pour vous déplaire en autistan, non?
Oui, je me dis avec une petite larme à l'œil qu'à tel monde serait bien plus autistocompatible. Mais ceci étant, ces notions-là ne sont pas nécessairement nouvelles. Pendant mes voyages, j'ai pu m'en rendre compte parfois. Prenons le cas des transports. En France, dès avant la crise, la SNCF faisait tout pour remplir le plus possible ses trains. Donc concrètement, il y avait assez peu de chances d'avoir de la place à côté de soi. Mais dans d'autres pays, c'était l'inverse. Généralement, les trains étaient à moitié vides. Et mieux encore, dans les pays asiatiques, Japon bien sûr en tête, dans le métro et ailleurs, les gens évitent de s'asseoir à côté de vous. Ils préfèrent rester debout longtemps. Et petite confidence, depuis toujours je fais de même. À savoir, je fais l'impossible pour ne pas m'asseoir à côté de quelqu'un. Cette proximité est pour moi assez agressive. Dans ces mêmes pays asiatiques, il y a souvent des sièges spécifiques pour les personnes âgées. La différence avec l'Europe, c'est qu'il serait impensable de s'y asseoir, quand bien même ces sièges resteraient vides faute de passagers âgés.
Comme une marque de respect, en fait, hein, pour ces personnes âgées, au cas où l'une d'elles arriverait.
Sans doute, Sophie. Mais à présent, avec le virus, on peut se dire aussi qu'il s'agit d'une façon de protéger, préserver les gens. Ouais. Et ces pays-là ont une expérience longue des épidémies. Autre environnement que la distanciation risque de chambouler totalement, l'université. Là encore, je le vis un peu de l'intérieur, de par mon travail à l'UCL.
Alors, l'UCL, c'est l'Université catholique de Louvain, je précise, donc en Belgique, pour laquelle vous travaillez partiellement.
Oui, et comme toutes les universités, on est face à un sacré défi. Comment reprendre l'activité dans cette société du mètre et demi? Et pourtant, un jour que j'étais dans mon pays préféré, à savoir le désormais fameux pour les auditeurs des carnets, État de Niue, cette superpuissance de 1200 habitants au cœur du Pacifique.
Ouais, un confetti au beau milieu de l'océan.
Ah, un fabuleux confetti, Sophie. Ouais. Hein, et lors d'une balade à vélo, évidemment, j'ai aperçu un étrange bâtiments par là-bas qui ne ressemblaient au rien aux maisons polynésiennes habituelles. C'était un bâti plus moderne, un peu de type boîte et sans fenêtre. Un peu perplexe, j'avais posé la question à des habitants et on m'expliqua que c'était l'université. Et j'étais encore plus surpris. Comment pouvait-on faire tourner une université avec une population nationale de 1200 habitants, hein? La réponse est simple. Le bâtiment était en vérité une annexe de la grande université du Pacifique Sud. Rien que le nom fait rêver. Cette université a pour particularité d'être pionnière dans la visioconférence. La géographie du Pacifique avec les îles très éloignées l'impose. Et pendant longtemps, j'avais réfléchi à une façon de me glisser dans l'une de ces salles pour pouvoir suivre les cours de l'université du Pacifique Sud. Un peu comme dans le Talmud, il y avait ce personnage de Hillel, un éminent sage qui, dans ses jeunes années, n'avait pas assez d'argent pour payer les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Et donc, il grimpait sur le toit pour pouvoir suivre malgré les cours, tous les cours à distance.
Le minuscule état de Niue aura été précurseur avant l'épidémie, en fait.
Tout à fait, Sophie. Mais le mieux est à venir. C'est qu'à ce jour, Niue demeure l'un des très rares pays totalement préservés du virus. Ouais. Comme on dit aux Polynésiens pour vanter le courage de quelqu'un qui heka ihu ika ale, celui qui, seul à l'avant du canoë, éternue quand les embruns de la mer le frappent. Ah, Sophie, certains endroits sont meilleurs que d'autres pour le confinement.
Et je suis sûre que vous auriez adoré être confiné sur le confetti de Niue, Joseph.
Ah oui, définitivement.
Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain et portez-vous bien.
Merci, à tantôt.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. On est un peu frères et sœurs de confinement et pourtant ça ne nous empêche pas de vadrouiller ensemble. Notez bien l'adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter si vous vivez une expérience particulière à l'étranger, notamment liée à l'épidémie de coronavirus. Vous la raconterez dans les carnets comme Erwan ou Alexandra cette semaine. L'adresse, c'est tout simple, lescarnetsdumonde@europe1.fr.